France Inter. Le 7-9.
Il est 7h48. Léa Salamé, votre invitée ce matin, est ancienne ministre de la Culture et auteure du roman Les Idéaux chez Fayard.
Bonjour Aurélie Philippetti et merci d'être avec nous ce matin.
Bonjour.
Ou dois-je dire bonjour Aurélie de Rubempré, tant votre troisième roman, Les Idéaux, raconte les désillusions d'une femme qui accède au pouvoir. Idéaliste et un peu naïve, elle va découvrir la brutalité, la corruption, les courtisans, les imposteurs, les faiseurs. Elle va en sortir dégoûtée, vidée, brûlée. Ça vous va la comparaison avec Balzac, avec Les Illusions perdues ?
Bien sûr, c'est même extrêmement flatteur à 7h50 du matin, merci beaucoup. En revanche, je suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit sur brûler, désabuser et dégoûter, parce que je pense malgré tout que si ce livre s'appelle Les Idéaux, c'est parce que je conserve profondément une foi, une confiance, la certitude qu'il faut continuer à croire en la politique. Et il y a des choses quand même dans ce livre.
Alors oui, à croire. En lesquelles il faut croire. Voilà, en fait, la distinction, elle est là. Vous dites qu'il faut continuer à croire en la politique, mais on a l'impression que la politique disparaît, ou en tout cas est mangée, est avalée par le pouvoir. Il y a une distinction très forte dans ce livre entre la politique, les convictions et le pouvoir. Dès qu'on arrive au pouvoir, dites-vous, quiconque, que ce soit, qu'on soit de gauche ou de droite, puisque vous racontez un ministre sarkozyste, puis une ministre sous Hollande, quiconque se brûle et succombe aux deux péchés capitaux du pouvoir, à savoir le cynisme d'un côté et l'hubris, ce sentiment de toute puissance. Tout le monde y passe.
Oui, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai choisi, que j'ai écrit un roman. Parce que ce qui m'intéressait, c'était de voir comment en fait le pouvoir traverse et transperce les êtres. Les êtres non pas dans leur, finalement dans leur individualité, mais peut-être en tant que type humain. Est-ce qu'il y a vraiment une fatalité à ce que le pouvoir, au fond, écrase la politique?
À vous lire, oui, il y a une fatalité. Parce que tout le monde y passe.
Que, ce que j'ai constaté, et là, pour le coup, mon expérience, évidemment, a nourri l'écriture de ce roman. C'est vrai que, et les 10 dernières années, ou les 11 dernières années, disons, qu'on a vécu, se sont soldées par l'effondrement d'un monde qu'on a appelé le monde ancien. Ce monde-là a disparu sans que aucun de nous, autour de cette table, n'ait jamais pu le prévoir, et pourtant, c'est tombé comme un château de cartes. Comment est-ce que ça, c'est possible? Comment est-ce que ça arrive? C'est évidemment un sujet extrêmement romanesque.
Et pourquoi vous n'avez pas mis les noms? Parce qu'on devine très facilement, on vous devine évidemment, François Hollande, Nicolas Sarkozy, Emmanuel Macron, d'autres également. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas assumé, eu le courage de mettre les noms?
Parce qu'à la fois, les individus réels, dont vous donnez les noms, là, ne sont pas réductibles à ce que moi ou un autre aurait pu en écrire dans un roman. On dépasse toujours le personnage qu'on est soi-même et le personnage qu'on donne à voir. Et aussi parce que j'ai aussi un trop grand respect pour le roman et pour la littérature pour en faire une espèce simplement de chronique de des années, disons.
Vous avez peut-être un trop grand mépris pour les livres politiques, c'est ce que vous voulez nous dire.
En tout cas, j'ai pas voulu écrire un livre politique, j'ai voulu écrire un roman. Et pourquoi? Parce que je pense que quand on écrit, il faut un peu mettre ses tripes sur la table, se mettre à nu et aller chercher là où ça fait mal, là où ça nous fait mal à nous-mêmes. Et il y a des choses, évidemment, qu'il fallait creuser, sur lesquels je n'avais pas de réponse. Et dans un roman, on peut poser plus de questions qu'on apporte de réponses. C'est ça la différence avec la politique, d'ailleurs.
Dans le cadre de ces illusions perdues, votre plus grande déception et votre colère est réservée à celui que vous appelez le prince, à savoir François Hollande, soyons clairs, qui a renié tous ses idéaux dès qu'il arrive au pouvoir. Il s'est laissé, dites-vous, manipuler à la fois par les forces de l'argent et par les médias. Vous dites très vite, il s'est perdu, Hollande, en voulant plaire à la fois à la grande bourgeoisie et à une petite caste d'éditorialistes.
Alors, c'est pas tant, en fait, encore une fois, c'est pas une individualité, c'est quelqu'un qui arrive au pouvoir et qui devient tout à coup, voilà, président de la République en France sous la Ve République. C'est évidemment immense, c'est trop grand pour un seul homme, quel qu'il soit. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Comment est-ce que quelqu'un qui, par ailleurs, a été porté par des idées et des idéaux de gauche et par un peuple de gauche qui a voté assez massivement pour lui en 2012...
Renie les choses.
Oui, et comment ça se fait? C'est parce que c'est pas...
Parce qu'il doute, dites-vous.
Encore une fois, j'ai posé des questions parce qu'il y a un vrai mystère, là. Quand on arrive au pouvoir avec une telle majorité et que, 5 ans après, l'ensemble s'est quand même soldé par un échec retentissant pour nous tous, un échec collectif, celui qui en a été l'incarnation, emporte évidemment une part de responsabilité, une part très importante.
Les médias, l'influence des médias, vous parlez,
les médias, c'est surtout
qui font et défont. les hommes politiques.
La manière dont aujourd'hui, en fond, on est obligé, quand on fait de la politique, d'être un objet totalement spectaculaire au sens de Guy Debord. On est dans la société du spectacle et au fond, ce que l'on donne à voir, la communication, ne sert plus l'action, elle remplace l'action. Et c'est ça qui est absolument tragique. Il faut faire croire qu'on fait avant même de faire.
Votre livre est un roman très politique, mais c'est aussi une histoire d'amour entre une femme de gauche qui vous ressemble beaucoup et un homme de droite qui ressemble beaucoup à l'ancien secrétaire d'État Frédéric de Saint-Sernin. En 2013, dans Paris Match, vous étiez avec lui, vous vous demandiez « Peut-on aimer quelqu'un qui a des opinions politiques divergentes ?» 4 ans plus tard, est-ce que vous avez la réponse ?
Mais la question, c'est peut-être « Peut-on... » Comment est-ce que l'amour existe ? Sujet largement traité par la littérature.
Non,
parce que la différence des idées politiques, au fond, quand deux personnes s'aiment, quelle que soit la nature de ces différences, il y a forcément une altérité et on s'aime malgré et justement peut-être aussi à cause ou grâce à cette altérité. Donc les idées, les idéaux politiques, ces deux personnages, moi ce qui m'intéressait, c'est de se montrer qu'ils s'aiment malgré leurs différences, mais en conservant leur profonde divergence d'opinion et d'analyse sur la société.
Et de classe.
Parce que
dans tout ce livre, on sent votre colère parfois de voir que l'homme que vous aimez ne sait pas, ne connaît pas la souffrance des pauvres. Et vous avez cette phrase qui est très belle. Vous dites « Le fossé infranchissable entre elle et lui, c'était le croisement impossible de leurs regards, les yeux insaisissables traversant sans vous voir de ceux qui ont et les pupilles admiratives de ceux qui, dans le regard des autres, ne sont rien. » Ceux qui ne sont rien. Ça, c'est une phrase prononcée par Emmanuel Macron.
Oui, bien sûr. Parce que
elle vous avait choqué ?
Oui, parce que voilà, moi j'ai un parcours. Enfin, je viens d'un milieu populaire et donc ce qui me choque le plus au fond dans la société, ça revient à une phrase de Rousseau, c'est qui disait pourquoi au fond les riches sont-ils si durs avec les pauvres ? C'est parce qu'ils n'ont pas peur de le devenir. Et c'est la faiblesse de l'homme qui le rend sociable. Et donc quand on oublie cette empathie là. Au fond, je pense que on oublie une part de la mission de l'homme ou de la femme politique. Et c'est pour ça que l'histoire d'amour est intéressante parce qu'au fond, l'amour, ça permet une forme d'empathie supérieure. Mmh. Et cet amour-là leur donne une forme de compréhension du monde de l'autre dont on a bien besoin en politique. Parce qu'au fond, l'homme ou la femme politique, ce sont des gens qui sont traversés par les émotions, par leurs passions. C'est évidemment un moteur important de l'action politique et il ne faut pas l'oublier.
Vous êtes moins sévère dans ce livre-là avec Emmanuel Macron qu'avec François Hollande, même si vous réservez aux députés macroniens, à ces nouveaux convertis, un portrait assez dur. Ils étaient persuadés de marcher dans le sens de l'histoire et avaient peu de distance avec leur propre certitude. Ils n'avaient pas le poids de l'héritage, la voix de Jaurès, le procès de Blum. Ils étaient résolument modernes, assoiffés de leur propre avenir, dédaigneux du passé, sûrs d'eux, conquérants et vains.
Je pense que c'est toujours dangereux de se croire les premiers. Et le mythe de l'homo novus, ça remonte à la Rome antique. Et en fait, c'est pas si nouveau que ça. Donc, il faut un petit peu de distance et un petit peu d'humilité quand on a la mission de représenter le peuple.
Donc, en fait, ça se répète inlassablement de Sarkozy à Hollande, de Hollande à Macron. Vous revoyez les mêmes. Il n'y a pas de nouveau monde.
Je pense qu'il n'y a pas de nouveau monde, mais ça depuis très longtemps. Par contre, ce qui est magnifique, c'est la mission de représenter le peuple, cette représentation parlementaire. On représente le peuple indivisible.
Aurélie Philippe Petit, vos illusions sont définitivement perdues.
Mais je crois pas, parce que
la politique, c'est définitivement fini.
Ce livre s'appelle Les idéaux. Il aurait pu s'appeler Les adieux, qui est son anagramme, mais non, ça reste Les idéaux.
Donc peut-être qu'on va vous revoir. Merci. Belle journée à vous.
Merci Léa.